Bonsoir chers amis de PFC, bienvenue dans cette réunion du dimanche 22 juin 2014. Il fait chaud, nous sommes nombreux ici, si je compte bien 16 personnes autour de cette table. Je sens beaucoup d'énergie, le silence était magnifique, celui que nous venons de terminer. Et puis on va simplement faire un tour de prénom. Au passage, en disant votre prénom, si vous avez visualisé quelque chose que vous souhaitez partager pendant les 20 minutes qui ont précédé la méditation, alors vous pouvez parler de cette visualisation. Voilà, on fait un petit tour.
Bonsoir Juliette. Bonsoir Christine.
Bonsoir Antoine.
Bonsoir Claire.
Alors moi j'ai eu quelques images, je pensais ne rien avoir du tout, mais c'est venu assez vite. J'ai une de mes premières images, ça a été l'ouverture vers la terre intérieure. Il y avait une lumière qui venait d'en haut, mais je ne sais pas trop comment l'expliquer parce que c'est des images. C'était une sorte de lumière blanche-bleue. Et moi, j'étais dans un corps qui n'était pas un corps dense, mais un corps, subtil, un corps un peu translucide, bleuté. Et j'avais un corps qui se détachait d'un autre corps et qui celui-ci partait en arrière. C'était mon vieux corps qui partait, enfin, comme ça que je peux le dire. Et j'étais avec des êtres de paix. Voilà, ça m'a fait très plaisir de voir ça. Il y a eu aussi quelque chose qui est revenu comme il y a un mois, enfin il me semble, c'est qu'à un moment j'étais dans une sorte de vaisseau sphérique ou ovoïde, mais en fait ceux qui étaient en bas sur la Terre, ils ne nous voyaient pas. Nous les voyions, mais eux ne nous voyaient pas. Il y a une autre vision qui était très agréable, c'était d'un seul coup dans la rue, tout le monde, enfin les gens qui étaient là, je sais pas, on était comme une sorte de farandole horizontale, on traversait toute la rue et il était dit quelque chose comme, enfin je l'entendais mais c'était pas vraiment scandé, c'était l'énergie qu'en sortait, c'était « nous sommes un ». Et il y avait beaucoup de joie dans cette rue, dans cet état d'être des gens. Nous sommes un. Et il y a eu une autre vision. C'était une sorte de, comment dire ça, centre de régénération pour les gens malades. Les gens étaient en blanc et le personnel qui s'occupait, les soignants, qui insufflait des choses c'est peut-être lié à nos solars, je ne sais pas. Les soignants et les patients, il y avait quelque chose de, il y avait plusieurs étages et il y avait quelque chose de très joli, de très solaire là-dedans, dans ce bâtiment, dans ce qui se recevait, dans ce qui s'échangeait. Voilà. J'ai eu ces visions-là et c'est marrant parce que j'ai suivi l'indication d'Avi. Au début, je me suis dit « Oh, je vais rien voir » parce que j'étais super fatiguée. Et en fait, je ne me suis pas endormie, à mon grand étonnement. Et je me suis mise dans la vision de l'arbre fleuri. Et c'est ça qui m'a amené ça. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient, cette idée que tu as eue. Mais c'était une excellente idée parce qu'elle m'a vraiment ouverte cette porte alors que j'ai cru que j'allais sombrer dans le sommeil. Ça a un peu tourné et c'est arrivé, toutes ces belles images. Merci.
Bonsoir Florian.
Bonsoir Marine.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Stella. J'ai visualisé comme dans l'univers, il vient une lumière rose qui embrasse toute la Terre. Et comme tout le monde, il est libéré de l'esclavage et tout le monde il fait qu'est-ce qu'il veut avec avec une bonne disposition et avec le calme. Merci.
Bonsoir David. Je voulais juste faire une petite réflexion sur ce que tu viens de dire, Avi, sur les personnes qui, des fois, quand elles délirent de trop, t'as ceci, ça, de la peur. Oui et non, quoi. Sans doute qu'on a tous des peurs. Sans doute qu'il y en a qui délirent parce qu'ils ont peur, mais moi, en l'occurrence, j'ai peut-être un petit côté humour décalé, sarcastique, mais. Enfin, moi, je suis comme ça, quoi. Alors, certes, c'est peut-être lié à des peurs, j'en sais rien, mais. Enfin, que ce soit ici ou ailleurs. En tout cas, ici, ça ne me fait pas peur, et au contraire, et j'adore être ici. Et... Donc voilà, je voulais juste apporter cette petite réflexion supplémentaire par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure.
Daniel. Je voyais rien pendant pas mal de temps. J'ai essayé aussi, quand tu as suggéré une image, et puis après, c'est en ressentant, en me sentant arbre, que j'ai senti énormément de choses. Que j'ai senti que, tiens, qu'il y avait des oiseaux qui arrivaient, des abeilles, que les uns et les autres étaient différents êtres. Et c'était une sensation très, très, très joyeuse, très, très agréable, c'était physique presque. C'était assez extraordinaire. Voilà.
Bonsoir, Ludmila.
Bonsoir, Thierry.
Bonsoir, Bruno.
Bonsoir, Véronique. Bonsoir, Catherine. Donc, en fait, j'ai visualisé comment ça se passerait sur Paris, parce que souvent, dans mes visualisations, je vois les personnes dans la nature ou dans des petites communes. Et en fait, j'arrive pas à avoir une représentation de comment ça pourrait être dans une aussi grande ville que Paris. Et donc là, tout d'un coup, je me suis aperçue qu'il n'y avait plus de bruit dans Paris. Parce qu'en fait, les voitures étaient... D'une part, les voitures étaient silencieuses, parce que ce n'étaient plus des moteurs comme actuellement. Et non plus, il n'y avait plus ces vilaines odeurs, qu'elles ne polluaient plus. Donc du coup, les gens étaient dehors, parce qu'il n'y avait plus de bruit, juste les conversations des gens, les oiseaux, et plus ces odeurs. Également, donc c'était tout de suite après l'événement, donc cette ville existait toujours telle qu'elle, et les gens se mettaient à planter des jardins sur tous les toits. Donc du coup, comme il y a beaucoup, beaucoup de toits, tous les toits plats dans Paris, donc il y avait des jardins de partout sur les toits. Et également, comme tout le monde perçoit dans mon rêve, ma visualisation, des revenus simplement parce qu'ils sont vivants, du coup, les gens se précipitaient beaucoup moins de partout. Donc, il y avait une sorte de grand calme dans Paris. Voilà.
Bonsoir, je suis Avi. Et je suis heureux de ces réunions qui se tiennent chez moi avec de plus en plus de monde, de plus en plus d'énergie aussi. Merci pour collaborer à cette co-création. Alors moi, j'ai senti que le canal des visualisations était un peu bloqué aussi cette fois-ci. J'ai eu deux brèves images. La première était particulièrement douce, c'était de l'herbe de blé, très verte, très belle, qui était parcourue d'un vent qui couchait un petit peu l'herbe. Ça donnait envie de la caresser, de s'allonger dedans. C'était un joli vert de prairie qui faisait du bien aux yeux. Voilà, ça c'était la première image. Et la seconde image était assez étonnante parce que je ne l'ai pas générée, je ne l'ai pas visualisée, elle est venue. Comme la dernière fois, elle s'est imposée à moi. Il y avait une sorte de grande tige florale, comme les roses trémières qu'il y a dans la cour, mais très grande, qui faisait plusieurs mètres de haut. et les fleurs s'épanouissaient très vite, et plop, 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 comme ça, comme un feu d'artifice qui montait jusqu'en haut de la tige florale, et c'était, waouh, c'était super, super agréable, avec des belles couleurs dans les roses pastels, des choses très belles à voir. Et puis, cette idée d'arbre fleuri m'est apparue dans la semaine, comme ça. Je me dis que peut-être que l'humanité en est à sa période de floraison, hein, et qu'on a longtemps végété, et que la conscience s'élève, 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 et puis fleurit. Et le florissement, c'est l'aboutissement, hein, c'est ce qui précède le fruit, et c'est... chose qui fleurit, c'est traditionnellement associé à une complétude, hein, ça fleurit. Osho disait la phrase suivante, en parlant du silence, il disait « Le silence viendra comme une floraison intérieure, c'est une partie de moi qui fleurit. » Pour fleurir, il faut avoir maturé, il faut avoir longtemps mûri les choses, et la floraison vient pour couronner le tout. Couronne de fleurs. Donc ça m'est venu pendant cette semaine, je crois, naturellement. Je me suis dit, si j'ai pas de support d'image, je vais garder à mon esprit un arbre en fleurs. Et c'était, pour moi, ça représentait bien notre état actuel dans l'humanité. Voilà, il y a maintenant un petit moment pour parler de la journée d'hier, pour ceux qui l'ont vécu, dans la méditation de la sororité de la rose. Donner des actualités sur PFC. Moi, je voudrais rappeler que l'événement peut tout à fait arriver à l'improviste. Peut-être sentez-vous qu'il y a une accélération dans l'air. En tout cas, dans les réunions, il y a très nettement une accélération. Regardez le nombre qu'on est aujourd'hui. Regardez l'intensité de la dernière réunion avec, selon Morgane qui était là, une jeune femme canadienne, des Pléiadiens qui étaient avec nous, qui étaient en train de sauter de joie dans l'air de cette pièce, qui nous encourageait. Donc il y a une accélération. Est-ce que c'est quelque chose qui va vers quelque chose, une complétude, un aboutissement? Qui sait? Qui sait? Moi, j'ai tendance à croire que l'événement peut arriver à chaque seconde. Et j'essaie d'accorder ma vie à ça, en étant prêt à ça, en étant simplement ouvert à cette possibilité. Et c'est vrai que, Juliette, tu as parlé de Christine Lagarde, la chef du Fonds monétaire international, dans une allocution en anglais, dont je n'ai pas trouvé la traduction française, mais j'ai quand même écouté, elle utilise au moins 10 fois le mot « reset ». « Reset » veut dire « réinitialiser ». Mais quand on utilise 10 fois un mot en 30 minutes, c'est réellement un message fort, que c'est une préparation intellectuelle à « préparez-vous à la réinitialisation ». À la réinitialisation des dettes, à la réinitialisation du système monétaire. Mais ce n'est pas n'importe qui dit ça. Pour moi, c'est un message extrêmement fort. Ça veut dire, psychologiquement, soyez prêts. Elle a parlé de 3 réinitialisations différentes. Je n'ai pas tout retenu, mais j'ai retenu simplement qu'elle a appuyé lourdement sur le mot « réinitialisation ». Et ce n'est pas n'importe qui l'utilise.
Avant qu'on passe à un autre sujet, un truc sur l'enregistrement de la méditation. Il y a des petits changements qui ont été apportés par rapport à la version du blog. Et en particulier le moment où visualiser les entités éthériques, être amené vers la lumière, dans l'enregistrement, il est dit que qui jouent un rôle apparemment négatif pour nous aider à nous libérer. Et, enfin, ça, c'est une interprétation personnelle. Que, Cobra a dit plusieurs fois le contraire. Que après, chacun est libre de faire sa propre opinion, mais ce serait bien qu'on le laisse neutre dans, la, dans l'enregistrement. Ben, ça, ce qu'il raconte, enfin, d'après les contacts avec, avec ses contacts, les Pléiadiens et les Agartha, c'est que le, c'est un accident dû à une réalité quantique, à une possibilité quantique, pardon, et que le, disons que la source n'a jamais eu la volonté de créer la souffrance. Il dit que c'est un programme archontique de, pour, dire, pour justifier leur existence et justifier la souffrance et pour nous amener à nous-mêmes à accepter de souffrir. Mais que le, la source n'a jamais voulu ça. Et donc, ça veut dire que la source n'est pas toute puissante dans l'espace-temps. Elle ne l'est pas. Sinon, je pourrais manifester ce que je veux maintenant. C'est-à-dire qu'il y a, il y a certains... Enfin, bon, après, je ne veux pas lancer un débat là-dessus. Après, chacun est libre de se faire sa propre opinion. Mais je trouve que ce serait bien si on pouvait le laisser neutre dans l'enregistrement. Et juste pour répondre à l'histoire de Christine Lagarde, moi, j'ai l'impression... Enfin, la Kabbale, ils ont aussi leur propre version du reset. Le pape, il en parle beaucoup. Et le pape, il est encore à fond dans toute la, la souffrance de la Kabbale. Il est encore à fond là-dedans quotidiennement. Il en parle beaucoup. Il a commencé à parler des extraterrestres aussi parce qu'ils ont leur propre version du premier contact et leur propre version du reset. Je ne pense pas que ce sera que la résistance et la lumière autorisera ça, laissera passer ça. Mais c'est leur plan depuis très très longtemps d'amener des aliens qui seraient Anunnaki, reptiliens, machin, de refaire de... Enfin bon, bref, ils ont leur propre plan et quand Christine Lagarde, qui est encore à fond dans la cabale, dit ça, je pense que c'est parce qu'ils essaient d'amener les gens à ça. Bref, c'est ma vision.
Oui, effectivement, là aussi, bon, ce n'est qu'une opinion personnelle, mais le fait que Christine Lagarde parle de reset, ça peut très bien être tout simplement une préparation psychologique, mais pas l'événement au sens où nous l'entendons, mais plutôt comme les banques aujourd'hui l'ont déjà pratiqué, hein, à Chypre, etc., c'est simplement préparer psychologiquement l'humanité au fait que les banques pourront piller leurs comptes en toute impunité. Et je pense que, de mon point de vue, le reset côté, enfin, interprété tel qu'en parle le FMI, c'est plutôt aller ratiboiser, entre guillemets, le peu de choses qui restent aujourd'hui. Voilà, donc je pense qu'il y a un certain nombre de points aussi au niveau de l'actualité financière qui démontre que les banques sont vraiment de plus en plus mal. Il y a énormément de contrôle aujourd'hui, ça je le sais par des éléments personnels. Par exemple, je sais qu'au Crédit Mutuel, qui est une banque dont on n'entend pas beaucoup parler, il y a eu, je l'ai su par un ami proche, il y a eu une descente de la brigade financière, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, avec une demande d'auditer en toute urgence tous les comptes, enfin tous les rapports émis par le Crédit Mutuel, puisqu'il semblerait que tout ceci ne soit pas très carré, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est quelque chose qui est aujourd'hui monnaie courante dans toutes les grandes banques, en tout cas françaises, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Voilà, donc on peut s'attendre effectivement à quelque chose de proche.
Ah, je voulais savoir, parce qu'à la vie, tu disais, c'est pas n'importe qui dit reset. Donc, c'est qui cette Christine Lagarde? Parce que vous ne l'avez pas encore expliqué d'une part. D'autre part, quand tu dis, ouais, Dieu, il n'est pas tout puissant, c'est-à-dire, tu peux aller plus loin, parce que je n'ai pas trop compris ton explication. Merci.
Après, ça, c'est personnel. Chacun. Si je peux parler de ma vision, c'est que Dieu. Moi, je ne crois pas en un créateur qui est quelque part, géographiquement. Je pense que Dieu, c'est, je l'appelle la source, parce que Dieu, ça a une c'est connoté masculin et c'est connoté externe. J'appelle la source qui est pour moi l'aspect le plus profond de chacun de nous, chaque chose, chaque arbre. Chaque... Donc pour moi, le Créateur, il est à 100% en chaque chose. Ce n'est pas quelque chose qui est quelque part et qui est tout puissant. Donc là, c'est l'aspect le plus profond, mais après, si tu veux, bon, ça devient super, très technique, et même, enfin, voilà, moi, j'ai pas toutes les réponses, quoi, mais disons qu'il y a différentes dimensions, différents espaces-temps, et qui ont différents niveaux de connexion avec la source, en particulier ici. Il y a eu une grosse déconnexion. Bon, le mythe, c'était qu'il y a 8 millions d'années, il y a un être, un espèce d'archange très, très, très puissant qui a décidé de faire l'expérimentation d'être déconnecté de la source. De voir, parce qu'il ne connaissait pas ça, il ne connaissait que l'harmonie, il ne connaissait que la connexion. Et il a fait l'expérience de voir qu'est-ce que ça faisait. Il n'avait aucune mauvaise intention. Il ne savait pas. Et donc, il a créé une technologie pour se couper. Ça créait des champs électromagnétiques qui coupaient sa connexion. Et aussitôt, il s'est soumis à ça. Et aussitôt qu'il était dedans, il a dit non. Mais il a commencé à souffrir. Il a dit non, je veux revenir. Le problème, c'est que pour trouver la solution pour revenir, il fallait qu'il soit connecté à la source. Donc là, c'est le paradoxe qui a été créé. De la dualité ici. Et ensuite, il a appelé d'autres êtres à essayer de le rejoindre pour essayer de le tirer de ça. Ils sont restés bloqués aussi. Et c'est ça qui est devenu les archons. Ça, c'est l'histoire que Cobra racontait dans les conférences. Bon, après, enfin voilà, chacun se fait sa propre idée. Mais pour moi, c'est dire qu'il y a un espace-temps ici qui est créé, qui est déconnecté. Et la source. Elle n'est pas toute puissante à l'intérieur de cet espace-temps. Elle voit tout, elle pousse à l'intérieur de chaque être, à l'intérieur de chaque acteur sur la planète, à ce que les choses se remettent en place. Mais il y a aussi le libre arbitre de chaque être qui, du fait de cette dualité, agit pas forcément en concordance avec la source et la vision de la source.
Et juste pour répondre à ta seconde question sur qui est Christine Lagarde, c'est la présidente du FMI, Fonds monétaire international. C'est sa fonction actuelle.
Ceux qui veulent s'exprimer, demandez le micro, sinon c'est inaudible pour les auditeurs. C'est moi qui suis à l'origine des reformulations de ce texte qui parlait d'entité négative. Et ce que j'ai envie de dire, d'après mon ressenti, dans le courant d'idées de la non-dualité, on parle de deux niveaux. Un niveau ici terrestre, espace-temps, dans lequel nous pouvons expérimenter le bien, le mal, le négatif, le positif. Et un autre niveau... qui est celui de la source, qui est l'unité dans laquelle il y a seulement le bien sans opposer, l'amour sans opposer, sans condition. Et dans cette non-dualité, on considère la dualité humaine, la dualité la matière et la dualité tout court comme un rêve, comme, alors bien sûr ça peut être discuté, ça peut être cru, pas cru, mais moi j'ai tendance à dire que je suis un être divin qui rêve d'exil, qui rêve d'autre chose, qui rêve qui peut être limité, mais c'est comme un rêve, comme je me suis endormi un instant, ça peut rejoindre l'histoire ou le mythe que tu présentes, mais quand je dis que c'est apparemment négatif, je parle du niveau de la source, de l'unité. Dans ce niveau-là, il n'y a pas de négatif ni de positif. Si je pars de ce point de vue-là, on est tous des frères qui collaboreront à l'amour, et, y compris la Kabbale. Donc, pour moi, ils jouent un rôle dans la pièce de théâtre, ce rôle est apparemment négatif, ça correspond bien à mes croyances ou à mon ressenti de comment se déroule le monde dans le niveau de l'unité et dans le niveau apparemment séparé de la séparation, ce que j'appelle la pièce de théâtre du monde, où certaines âmes courageuses ont dit « moi je vais prendre le mauvais rôle, c'est parce que je suis tellement courageuse que je vais accepter toutes les critiques, tous les jugements, je vais faire partie de la cabale ». Mais certains disent, et j'entends ça, que ce sont les âmes les plus courageuses qui ont accepté de jouer les rôles les plus apparemment négatifs. Pour moi, de dire qu'il y a des entités négatives, ce n'est pas présenter une version neutre. C'est tout sauf neutre. Parce que quand on dit négatif, et c'est le terme d'origine qui est suggéré dans la méditation, ça s'oppose à positif. Et ça, c'est des concepts de séparation. Et donc, ce n'est pas neutre. Hein, ça, d'une certaine manière, ça prend parti. Et cette prise de parti-là, pour moi, elle m'empêche de considérer que nous sommes frères, quel que soit le rôle que nous jouons. Et que les membres de la Kabbale sont aussi des frères et sœurs comme moi, ont autant de valeur, mais jouent un rôle différent. Et ce rôle, pour moi, il est destiné à ce que nous nous réveillions, nous réagissions à leurs agissements, et parce que nous réagissons, alors nous élevons nos vibrations. Donc c'est ça qui m'a poussé à dire, je n'ai pas envie qu'il y ait de jugement dans ce texte de méditation, puisqu'il s'agit de basculer dans un espace d'amour. Comment est-ce que je peux basculer dans l'amour si je dis « toi t'es mauvais et moi je suis bon » Ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Et j'ai été amené à poser du non-jugement, y compris sur la Kabbale. Donc c'est ça, ça m'appartient. Hein. Moi, je revendique complètement cette version. Il y a certaines phrases qui, pour moi, ne passaient pas avec l'état de mon ressenti ou de mes croyances par rapport à ça.
Je te le passe tout de suite, juste pour dire que je suis heureuse de ce débat, si on peut appeler ça, parce que c'est quelque chose qui me posait question depuis le début. Donc, j'avais apprécié que la vie fasse ce changement, mais peut-être que je n'avais pas bien compris. En fait, ce que voulait dire Cobra, je ne sais pas, mais c'est bien si tu peux l'expliquer.
Je suis d'accord avec toi que c'est nos frères et sœurs et qu'il n'y a pas d'être et d'âme qui est fondamentalement mauvais. Mais ce que la phrase que tu as rajoutée dit, c'est qu'ils ont joué un rôle négatif pour nous aider à nous libérer. Ce que ça sous-entend, c'est que la souffrance et toute cette dualité et tous ces problèmes et toutes ces souffrances à laquelle qu'on traverse, elle est nécessaire et c'est une partie de notre évolution. Et elle est là pour nous aider. C'est-à-dire qu'on en a besoin de souffrir. Et ça, c'est là où j'ai un souci. Ce que j'estime qu'on n'a pas besoin de souffrir, j'estime que c'est un accident. Encore une fois, chacun est libre de... Je ne veux pas faire une bataille à ce niveau-là, mais je sais que la méditation de base, elle a été pensée d'une certaine façon. Il a fait un article en expliquant qu'est-ce que c'est la victoire de la lumière, parce qu'il y a des gens qui ont des soucis avec le côté victoire, ça veut dire qu'il y a une défaite. C'est un petit peu la même question. Il a expliqué qu'il y a la victoire de la lumière, c'est pas la défaite, c'est la défaite de personne. C'est quelque chose où tous les êtres seront soignés, y compris les archons et tout ça. Ils ont besoin de soins. Ils n'ont pas besoin d'être écartés. Ils n'ont pas besoin d'être. Comme je disais, l'histoire c'était que c'était des anges, l'ange déchu. Bon, et ils ont besoin d'aide et de soins. Mais ils sont dans une espèce de transe où ils ont perdu toute connexion et ils peuvent pas s'arrêter d'eux-mêmes et ils ont pris toute cette planète en otage et l'arrestation c'est pour les aider. Mais donc du coup c'est nos frères et sœurs et on est là aussi pour les aider autant que nous aider nous-mêmes. et les ramener vers, vers l'unité. Ça, je suis tout à fait d'accord. Là, le désaccord, c'est que c'était un choix de souffrir et que tout a été prévu, de toutes ces horreurs qu'on voit sur cette planète, tout a été décidé et prévu parce qu'on avait besoin de ça. J'ai beaucoup macéré cette histoire, mais bon, personnellement, je pense que non. Je pense qu'on n'a pas besoin de souffrir pour apprécier la création et la vie. Au contraire, quand on souffre, c'est là où on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à... Des fois, il y a certains événements dans notre vie qui sont difficiles et qui nous aident à avancer. Et ça, j'estime que c'est parce que la souffrance, les problèmes, les programmes étaient déjà là, soit dans notre environnement, soit dans notre psyché. Et c'est des événements qui amènent les problèmes qui étaient déjà présents vers la lumière. Et le fait de les amener vers la lumière, vers la conscience, permet de les transformer. Mais qu'on avait besoin de tout ça, je ne pense pas. Et je sais que, pour en avoir parlé Cobra, c'était la même chose qui était dit. Et c'était comme ça qu'était pensée la méditation de base. Alors après, on peut participer à la méditation, et même si on estime que bon, c'était un choix et tout ça. Mais ce serait bien de laisser l'enregistrement ouvert, que les deux modes de pensée puissent s'y retrouver.
Ok, moi je ne suis pas tout à fait ouvert à ce que ça puisse, qu'il puisse y avoir une proposition qui exclut cette idée de souffrance. Moi, j'ai étudié Un cours en miracle, qui est un ouvrage assez majeur dans les enseignements non-duels. Et ça rejoint ce que tu dis. L'idée de séparation, c'est une petite idée folle dont le Fils de Dieu ne s'est pas souvenu de rire. Donc, on s'est pris au jeu. On a voulu jouer, et c'est absolument ce que tu dis. On a voulu jouer, mais je parle collectivement. On a voulu jouer à ne pas se croire divin, à se croire séparé de la source, et on s'est pris au jeu, on a oublié comment revenir, exactement. Et donc, au début, c'était pour jouer, et après, on est entré dans un labyrinthe, et on ne savait pas comment en sortir. Là, la souffrance est apparemment née. Mais d'après les enseignements non-duels, notre âme, notre soi supérieur reste dans la paix, dans l'amour en permanence. Et il y a une partie qui dort un peu, qui est dans l'oubli de sa divinité, qui rêve d'exil. Ça, c'est un terme du cours en miracle. Donc, la souffrance, elle est arrivée parce que, d'une certaine manière, si je me coupe de l'amour... J'invente l'opposé de l'amour, puisque je suis coupé de la source d'amour. Donc, je crée une chose apparemment impossible. Je sors de tout ce qui existe. Comment sortir de tout ce qui existe? Ça peut être que en rêve. Et moi, tout ça, ça se tient pour moi. Donc, je sors de tout ce qui existe. Et dans cette sortie-là, j'imagine qu'il peut y avoir un opposé à l'amour. Mais c'est un rêve. C'est vraiment... Bon, on ne va pas aller plus loin. Il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Je dis aussi que la souffrance, on ne l'a pas choisie, mais on s'est pris au jeu et on a souffert parce que tout d'un coup, on ne peut plus rire de notre expérience, de qu'est-ce qui se passerait si j'étais pas divin. C'est drôlement difficile. On n'arrive plus à rire de ça. Donc, cette souffrance, c'est comme une conséquence non voulue. Chacun peut avoir un rêve différent, on peut rêver de jouer tel rôle ou tel rôle. Ça n'empêche pas qu'on reste des êtres divins. Donc si Antoine, tu as une proposition, moi je suis ouvert à l'écouter et puis à l'intégrer éventuellement, si ça correspond.
de ce que je comprends, enfin, j'ai l'impression qu'il y a un accord sur le fond, mais ce que tu dis, c'est que s'ils ont accepté de, s'ils jouent ce rôle de apparemment négatif, le but c'est pas pour nous réveiller. Ils jouent ce rôle apparemment négatif parce qu'ils sont coincés dedans, et donc nous, on peut faire le choix de rebondir à partir de ces événements pour nous réveiller. Mais c'est un choix qui nous appartient. Mais eux ne jouent pas ce rôle dans le but de nous réveiller. Il y a une nuance là. Oui ?
Voilà, je propose qu'on termine là-dessus parce que c'est pas le but n'est pas là. Donc...
Non, 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 non.
Oui, bien sûr.
Oui, en fait, que c'était, je pense qu'on peut reformuler pour que tout le monde s'y retrouve. Mettre autant que, oui, c'est nos frères et sœurs, ils sont pas, c'est pas des êtres fondamentalement négatifs, tout le monde vient de la source. Mais que le fait qu'ils infligent ces souffrances à l'humanité et à la nature et à tous les êtres ici, c'est pas pour notre bien. C'est pas nécessaire. C'est ça que moi je. Donc peut-être de redire, je sais pas, de repenser à une formulation. La libération pour ces êtres apparemment négatifs, moi ça me va. Pour nos frères et sœurs apparemment négatifs. Mais le pour nous aider à nous libérer, c'est la question.
Ok, ok pour moi. Voilà. C'est pas un truc sur la non-dualité, donc on va quand même parler de PFC. Une seconde.
C'est pour lui.
Du calme.
Oui, c'est sûr que on cherche pas à ce qu'on se réveille. Hein. Il n'y a qu'à regarder, par exemple, hier, si vous avez suivi le journal d'Antenne 2, ils ont fait un dossier sur les ovnis. Bon, et le dossier était très intéressant parce qu'on avait des images où on voyait vraiment des documents photographiés et filmés en France, mais c'était des ovnis, on voyait différents ovnis qui étaient vraiment étonnants, d'une qualité technique supérieure à ce qu'on connaît là. Et le commentaire, c'était, bon, pas de souci, oui, on a noté, en effet, telle chose qui se passe en France, ça, mais vous inquiétez pas, tout est enregistré par le, je sais plus comment ils appellent ça, il y a un organisme, oui, voilà, GEPAN, etc., c'est noté, c'est archivé, et tout va très bien, et c'était, ça concluait, voilà, continuez à prendre des photos, des vidéos, on s'en occupe, tout va bien. Continuer à dormir, quoi. C'est vraiment ça. Et puis voilà, boum, allons. Puis après, Coupe du Monde.
C'était plus pervers parce que je l'ai vu aussi. Je suis restée avec ma mère à la maison de retraite pour voir ça. Il disait, il n'y a que sur 300 témoignages, il nous en arrive plusieurs par jour. Enfin, bon bref, 300 par an, je crois, enfin au moins un par jour. En fait, il n'y en a que 2 ou 3% qui signifieraient qu'il y aurait peut-être des ovnis. Mais, alors là, c'était incroyable. Il y a eu une photo d'une machine qui ne pouvait absolument pas être de la technologie terrestre, en tout cas pas de celle à laquelle on nous donne accès, puisque paraît-il qu'il y a des technologies qui sont absolument secrètes, donc peut-être que ça fait partie de ça. C'était un espèce de truc triangulaire avec plein de lumière, comme ça. Enfin, c'était... Et ils ont dit, il y avait une histoire de rationalité. Aucune explication rationnelle ne peut, enfin toujours le même baratin à la con, aucune explication rationnelle ne peut abonder dans ce sens-là, donc on ne sait pas, enfin bref, exactement, dormez citoyens, rien ne se passe. Alors moi sinon je voudrais dire que je me sens, par rapport à la discussion qui vient d'avoir lieu, je me sens mal, mais vraiment mal, ça m'alourdit considérablement les méninges, la tête, je me dis mais... de toute façon, on ne peut pas avoir accès, enfin moi je ne peux pas avoir accès, peut-être vous, mais moi je ne peux pas, à ce qui s'est passé il y a 8 millions d'années. où il y a 800 millions d'années, où il y a 8 milliards d'années, j'en suis incapable, ça me prend le chou. Bon, personnellement, je suis l'enseignement du Christ dans les lettres du Christ. J'arrive pas tellement à faire les... Je vois pas tellement la connexion entre ce qui m'est enseigné dans ces choses-là qui rejoignent la non-dualité là-dedans, enfin le livre dont auquel tu fais référence. Et je sais pas quoi dire, mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine pour moi sur Terre, c'est que ce monde marche sur la tête. Je sais pas si c'est les archontes, les bidules, les Anunnaki, les machins. Ce monde marche sur la tête, c'est évident. Qu'il y a un énorme mensonge permanent à la télé, c'est pour moi évident quand je l'ouvre, puisque je la regarde pas tellement souvent. Et c'est tout ce que je constate, c'est qu'on nous ment depuis des éons, j'en sais rien, mais en tout cas très longtemps. Voilà, c'est tout. Et ne serait-ce que ça... fait que je suis très heureux si réellement Cobra a raison, parce que des fois j'en doute, et qu'il y a un bouleversement radical de tout le fonctionnement actuel de la société, parce que tout est trop injuste, il y a trop d'injustice, c'est trop injuste. Voilà. Alors moi, j'avoue que ces débats-là, j'ai l'impression que vous êtes dans un salon mondain et que vous vous torturez la tête avec des trucs auxquels... moi, je suis incapable de savoir si c'est les archontes, les machins, les gris, les petits gris, les grands gris. J'en sais rien. Je ne sais pas. Et ça me prend la tête. J'en sais rien. Je ne sais pas.
Faire attention à ne pas juger les gens, parce que le salon mondain, c'est pas très gentil. Merci, Antoine. Si t'es pas d'accord, t'as le droit de pas être d'accord. Si t'as décidé que tu pouvais pas savoir que ça te prenait le chou, c'est ton choix. Après, je pense que chacun a la capacité de savoir. Justement, on nous a appris qu'on pouvait pas savoir de nous-mêmes. Je pense qu'on a cette capacité. Après, si t'es pas d'accord, t'es pas d'accord. Mais de te juger comme ça, c'est le mandat.
Voilà, je profite pour rappeler cette règle qui me paraît tellement fondamentale. Je rappelle de temps en temps, nous sommes tous égaux dans ces réunions. Il n'y a pas de chef. Certains utilisent leurs compétences, dont moi, d'organisation, peu importe quoi. Chacun amène sa pierre. Je vous invite à utiliser vos ressources. Je nous invite à collaborer, à ne pas nous opposer les uns aux autres. Ça veut dire non-jugement total. Chacun est avec ses niveaux de croyance. C'est parfait comme ça. On n'est pas tous au même niveau d'évolution. Ça ne fait pas de certains des êtres meilleurs que d'autres. C'est les grands frères, les petits frères. Nous, par rapport à l'humanité, nous, entre nous. La tentation de nous opposer les uns aux autres, parfois, est grande. La tentation de claquer la porte, parfois, est grande. La tentation être dans le « moi-je »,« moi-j'ai raison », parfois est grande. On essaye de ne pas oublier la mission. On essaie de laisser l'ego de côté. C'est pas l'ego qui va nous permettre de nous sentir mieux. C'est pas l'ego, c'est pas la personnalité qui va nous permettre de progresser dans notre mission. C'est la coopération, c'est la collaboration. Notre monde futur, ce sera un monde de partage. Et on essaye de le vivre dès maintenant à travers ces réunions. Donc, ça, je le rappelle de temps en temps, nous sommes égaux. Hein, et chacun donne ce qu'il peut donner. N'attendez pas que ça vienne de quelqu'un en particulier. Donnez ce que vous avez à donner dans ces réunions. Parce que vous avez votre signature unique sur la Terre, votre compétence unique sur la Terre. Et c'est ça que le groupe attend collectivement, que chacun puisse contribuer. Ça, c'est d'une manière tout à fait générale. Donc, le non-jugement total, ça implique que chacun en est avec ses niveaux de croyance. Mais on a le droit de ne pas être d'accord, mais on peut aussi entendre des idées sans être d'accord avec, et puis en acceptant qu'elles puissent être émises. Hein. Parce que, bon, on a tous une histoire et puis une évolution différente. Voilà, et moi je me réjouis que ces groupes s'élargissent de plus en plus et que ce que j'ai visualisé d'assez intéressant, et c'était pas dans la période de visualisation, c'était dans le silence. C'était assez étonnant. J'ai visualisé qu'à chaque que dans le silence, on était en train de créer ensemble un temple. Et qu'à chaque inspire, je rajoutais une brique, ou je rajoutais une bougie, ou j'allumais un encens. Et qu'à chaque inspire, le silence construisait un temple. Et je sais que nous, ensemble, on construisait tous ce temple. Et c'était très beau, ça m'a porté assez longtemps. Et d'une certaine manière, c'est vrai, parce que ce silence, je l'appelle sacré, parce que c'est un retour à soi, c'est vraiment se poser, se centrer, et puis on le fait ensemble, donc on fabrique vraiment un édifice de prière. Et c'est ça, un temple. Donc ça me paraît tout à fait adéquat comme... image, ce que j'ai eu. Voilà, je suis arrivé par hasard, c'est un autre sujet, je suis arrivé par hasard sur À la lumière du Nouveau Monde. Pourquoi? À cause du conseiller BNP Paribas, hein, qui disait, dans son interlocuteur disait, allez voir À la lumière du Nouveau Monde. J'ai dit, tiens, ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir. Et là, surprise, je suis arrivé sur un article récent, très récent. C'est genre... 16-17 juin, hein, on est le 22, hein, et c'était une société qui s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez, IPS Total Green, donc IPS totalement vert, qui présente un générateur électrique sans carburant, mais d'une manière hyper sérieuse, je dirais, hyper solide, basé sur l'électromagnétisme, avec un changement majeur par rapport aux autres axes d'énergie libre. Il dit, ce générateur-là est différent des autres parce que les taxes et contributions sont reversées à l'État. Alors, ça peut être pris de différents sens, hein, mais d'une certaine manière, c'est, si c'est vrai ce qui est dit là, c'est... la manière par laquelle l'État n'essayera pas de supprimer, parce qu'il ne rentre pas en concurrence avec les fournisseurs d'énergie de l'État. Cependant, la contribution, ces appareils ne seront jamais vendus, c'est ce qu'ils disent. Hein. La contribution que nous allons payer lorsque nous louons un appareil comme celui-là, ça représente 10% de notre facture d'énergie mensuel ou annuel, 10%. Ça veut dire que c'est 90% moins cher. Alors, même si on paye des taxes, peut-être qu'il y aura un compteur, peut-être qu'il y aura quelque chose là-dessus. Il y a une vidéo de présentation, c'est intéressant. Si vous allez sur La Presse Galactique, ça y est, au niveau énergie libre. Si vous allez sur À la lumière du Nouveau Monde, ça y est. Ce sont des sources relativement fiables pour moi. Donc, vérifiez ça. Il parle aussi de IPS Car, donc une voiture basée sur ce générateur. Il y a une petite démo très courte. Voilà. Et puis, il y a aussi un autre système basé sur la même chose, qui produit 15 kWh et dédié au système de traitement des eaux polluées en cas de catastrophe, inondation... dans un projet humanitaire, tremblement de terre, on amène un générateur comme ça, et n'importe quelle eau est transformée en eau potable. Donc c'est un but humanitaire qui peut, il peut fournir 25 000 litres d'eau pure par jour. Honnêtement, j'ai été impressionné. Hein. J'ai été impressionné, j'ai commencé à y croire. Est-ce que c'est une manipulation de la cabale? Je ne sais pas. Mais en tout cas... il y a un formulaire, il faut devenir membre d'un club privé pour avoir accès à la location. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Je vous invite juste à avoir du discernement, à vérifier ça et à regarder qu'est-ce qui résonne. Ça parle beaucoup d'environnement. C'est une société Total Green, qui a un souci pour l'environnement qui semble assez grand. Voilà, il faut garder quand même à l'idée que ça peut être aussi de la manipulation. Oui, oui, oui. Mais à mon avis, ils cherchent des sponsors. Hein. Donc, ils ont comme projet d'envoyer comme cadeau d'anniversaire un générateur tel que celui-là à Bill Gates, parce qu'ils disent un milliardaire ne peut jamais avoir un cadeau qui lui fasse vraiment plaisir parce qu'il peut s'acheter tout ce qu'il veut. Et donc, en octobre, ils veulent offrir un générateur sans carburant comme celui-là à Bill Gates parce que, d'une certaine manière, ils cherchent des investisseurs aussi pour parce que les investisseurs pourront avoir les droits de créer des usines pour reproduire en mettant des millions d'euros. Il y a des sommes qui sont... Et puis, ils ont aussi le projet d'envoyer à celui qui a fait l'avion solaire, l'avion qui utilise zéro carburant pour faire le tour de la Terre, d'envoyer un exemplaire de ce générateur pour qu'il soit dans l'avion, parce que l'avion, la nuit, fonctionne avec des batteries, parce qu'il n'y a pas de soleil, et ça serait pour remplacer les batteries la nuit. Mais c'est aussi un milliardaire. Donc la constante entre les deux, c'est deux milliardaires qui pourraient sous-entendre « Vous avez des sous, nous on a la technologie, on fait donnant-donnant. »
Oui, mais ils font partie du Debel quand même.
Ils font partie de la cabale. Je suis... voilà. Bon, tout ça, en effet, posons-nous les questions. Cela dit... Ça peut être creusé. Il y a un formulaire pour s'inscrire. Voilà, IPS. IPS, pour trouver, on cherche IPS énergie libre sur Google. IPS, c'est Internal Power System. C'est des moteurs qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'on utilise l'énergie ou pas. Ils sont silencieux. Ils sont non polluants, etc. Ça a suscité une sorte de vague d'espoir en moi. Maintenant, j'ai à cœur d'être dans le discernement aussi. Voilà, je veux dire aussi aux membres de PFC que l'envoi des photos a commencé. J'ai pas encore eu le temps, j'ai un emploi du temps extrêmement chargé là, de les imprimer, mais j'ai déjà 3 ou 4 photos. Sandra de la région des Alpes-Maritimes 06 nous a envoyé une belle photo, super, on va la faire tourner. Oui, j'ai émis pendant la dernière réunion l'idée qu'on puisse avoir les photos de tous les membres qui veulent bien, qu'on puisse les inclure dans les réunions en leur disant bonjour, visuellement, donc pour faire un groupe réellement plus grand. J'ai eu une photo de Christelle en Bretagne, qui est vraiment une sœur de lumière, qui est à fond dans la conscience, qui semble hyper dans l'amour, qui se propose d'accueillir Lina une semaine entière chez elle en Bretagne pour qu'elle ait des vacances, parce que Lina a exprimé le vœu d'avoir des vacances en dehors de ce que j'appelle trou à rat, parce que se sent hyper mal dans sa maison. Et Christelle a répondu avec beaucoup de générosité qu'elle donnait sa maison une semaine, elle contribuait à ce projet-là, mais elle demande qu'il y ait au moins 2 autres personnes volontaires pendant cette semaine chez elle, parce que Lina a besoin de soins permanents, elle n'est pas du tout autonome physiquement, a besoin qu'on lui fasse sa toilette, etc. Et ça m'a ouvert des options. D'abord, merci Lina, parce que d'une certaine manière, tu nous aides beaucoup à nous ouvrir à la partie de nous-mêmes qui a envie d'aider. Et quand nous aidons les autres, nous nous aidons nous-mêmes, puisque nous ne sommes pas séparés. Ce qu'on fait pour l'autre, on le fait aussi pour soi. Donc peut-être qu'une partie de l'événement intérieur, ça sera quel plaisir j'ai à donner, quel plaisir j'ai à rendre service à travers Lina, mais c'est une sorte d'invitation à retourner à soi, d'être en empathie, d'être en compassion. Ce que nous donnons nous est retourné au centuple par le seul fait que nous nous autorisions à le donner. Ça, c'est ma conviction profonde. Une fois, j'ai donné 10 euros délibérément à quelqu'un au feu rouge, vous savez, les gitans qui passent avec un sourire, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai sorti un billet de 10 euros, je lui ai donné, je l'ai regardé dans les yeux, il m'a fait un sourire, mais alors, il m'a dit merci, je ne sais pas combien de fois, Il a arrêté de demander aux autres voitures. Il m'a dit au revoir. C'était un événement extraordinaire. Ça a coûté 10 euros, mais ça m'a apporté énormément. Peu importe s'il était sincère, pas sincère, si c'était juste pour avoir de l'argent. Il s'est passé un petit miracle et ça a coûté juste 10 euros. Et c'est un investissement pour le bonheur. Pour moi, c'est ça que ça voulait dire. Donc, parfois, quand quelqu'un me demande de l'argent, je ne me sens pas disponible, je ne donne pas. Et parfois, je donne beaucoup plus que ce qu'il demande, juste pour le surprendre, parce que j'ai envie de voir qu'est-ce que ça suscite. Et j'ai eu plusieurs expériences extraordinaires qui m'ont éclairé, qui m'ont enrichi, juste en arrêtant de retenir, mais en relâchant les choses, l'argent en particulier. Voilà. Donc, si vous sentez, il y aura des dates qui vont être fixées, de venir passer une semaine en Bretagne. Ça peut être des vacances formidables, parce qu'on peut collaborer à plusieurs, dans une mini-communauté, sentir qu'on est là vraiment avec notre bon cœur. On ne se force pas pour y aller, on y va parce qu'on a envie d'y aller. On est là pour donner de bon cœur. Et par là même, on va recevoir aussi, parce qu'il n'y a rien qui est vain dans l'univers. Quand on donne de l'amour, l'amour revient au centuple. Ça, c'est aussi ma conviction profonde et aussi mon expérience. Donc, il y a plusieurs dates qui ont été proposées par Christelle. Ces deux êtres adorables, ils ont chez eux un extracteur de jus, ils ont une maison vraiment avec plein de choses... top conscience, je dirais, et il nous invite à venir partager l'abondance et à venir à ce que Lina soit une petite reine pendant une semaine et qu'on la chouchoute parce que je pense que la maladie de Lina, je l'ai déjà dit, c'est une maladie d'amour. Et tant que l'amour ne sera pas restauré, je dirais déjà d'elle à elle, sa maladie continuera à lui faire croire qu'elle est séparée de l'amour. Ça, c'est ma conviction. Et donc, pour que l'amour puisse être restauré en elle, l'absence de culpabilité qui induit cette maladie, il y a besoin d'inverser les croyances, c'est-à-dire voir à l'extérieur ce que je voudrais que soit à l'intérieur. Nous sommes des miroirs. Ça veut dire que l'amour que je vois dehors me ramène à l'amour que j'ai dedans. Et si je le vois dehors, ça m'aide à renforcer l'amour que j'ai dedans. C'est pour ça que on essaie d'être sans jugement ici, pour être des miroirs, des réflexions de l'amour mutuel. Voilà, donc bienvenue à ceux qui ont la bonne volonté. Ça va se passer au mois de juillet, je crois, pour donner un peu de leur temps et aussi pour passer une semaine qui peut être extraordinaire, de mon sens, donner sans contrepartie et à voir ce que ça peut amener dans la vie. Alors, j'attends que d'autres photos arrivent, je commencerai à les imprimer. Et puis, j'ai une autre idée, tout d'un coup, je sais que les idées ne viennent pas toutes seules, mais elles s'enchaînent. Pourquoi est-ce que nous-mêmes, nous ne donnerions pas nos photos à ceux qui sont loin? Parce qu'ils nous entendent, mais ils ne nous voient pas. Donc, j'ai l'idée qu'on l'a déjà fait, mais on peut continuer, à ce qu'on fasse des photos de groupe et qu'elles soient jointes à... aux enregistrements audio, ou que vous envoyez vos photos individuelles, que ça soit joint, qu'il y ait une sorte de mosaïque, et que ce groupe de 114 personnes, ce soit une communauté d'âmes, de frères et de sœurs, qui se connaissent, qui soient un vrai groupe, et non pas juste des êtres qui sont dans leur coin, isolés, qui sont de temps en temps connectés par l'audio, mais qu'il y ait plus de cette fraternité, elle puisse... être, entre guillemets, vécu à travers un visage, à travers une image, à travers... Il y ait plus d'interactivité. Voilà, c'est ce que... J'ai d'autres idées que j'exposerai tout à l'heure.
Ouais, la photo de groupe, c'est une bonne idée, mais je pense que photo individuelle, c'est plus sympa, parce que peut-être que les gens, ils sont curieux, ils ont envie de mettre un nom sur une voix. Non, en fait, je voulais revenir sur ce que tu disais juste précédemment. Quand je fais quelque chose, ça me revient en centuple. Moi, j'avais cru comprendre que la loi de l'attraction, si tu donnes à un certain niveau, ça te revient au même niveau. Donc là, tu dis au centuple, et c'est pas la première fois que j'entends quelqu'un dire au centuple. Donc, qui dit vrai, en fait?
Voilà, je vous présente David, l'inventeur du point d'interrogation. Alors, cela dit sans aucun jugement, c'est super utile d'être curieux dans la vie. Il y a la curiosité maladive qui est intrusive et qui est reliée à la peur. Et il y a la curiosité saine, celle qui a envie de découvrir. Moi, j'étais super curieux quand j'étais petit. L'informatique, c'était génial parce que je pouvais aller dans tous les recoins de ma curiosité. C'est une expression au centuple. La joie que ça m'a donné de donner 10 euros n'a rien à voir avec ce montant de 10 euros. Elle était immense. Elle était sa joie à communiquer avec ma joie. On était tous les deux joyeux. Et c'était énorme. C'était pas, ça n'a pas de valeur financière, une joie comme ça. Donc, si vous avez 10 euros à lâcher, lâchez-les consciemment, volontairement avec un mendiant et regardez-le dans les yeux lorsqu'il reçoit. C'est extraordinaire. Parce qu'à ce moment-là, vous faites de lui un frère et non plus un être inférieur qui ne devrait pas, etc., se mendier la charité, se rabaisser. Enfin, voilà. Soit vous le considérez comme un frère, soit vous le considérez comme un maître qui a quelque chose aussi à vous enseigner. Hein, les mendiants peuvent nous enseigner beaucoup de choses, hein, énormément de choses. Par exemple, si je suis indifférent à un mendiant, ça peut vouloir dire que je ne veux pas voir la misère en lui parce qu'il y a de la misère en moi. C'est ma propre misère que je refuse de voir. Donc, voir le mendiant comme un frère, c'est arrêter de croire qu'il est misérable. Jésus disait, en réponse à une question, comment considérer le mendiant dans la rue ? Il disait, le mendiant, il s'adressait au mendiant, il dit, qu'est-ce que tu fais là à mendier être puissant, être divin ? Pourquoi as-tu cette idée de mendier dans la rue ? C'est donc changer de vision. Hein. C'est un être puissant qui a cru qu'il devait mendier. Hein. Une vision erronée, je dirais. Erronée ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Hein. C'est juste comme une erreur d'orthographe.
Voilà, je change de sujet. Pour évoquer une nouvelle que j'ai vue cette semaine, qui m'a fait beaucoup réagir. C'est un sondage qui a été fait, je ne sais plus par quel magazine, un sondage, un institut de sondage, qui dit que 1 Français sur 5 croit aux Illuminati. Enfin, 1 Français sur 5, c'est 25% quand même, hein, c'est... Je ne sais pas si vous réalisez quand même. C'est... Ben, oui, pardon, mathématiques. Voilà. C'est énorme. 1 jeune sur 3. Alors là, du coup, alors là, les médias, ils ont été obligés de réagir parce que ça concerne une grosse partie de la population. Donc il y a le grand journal de Canal+ qui ont fait un sujet là-dessus, qui ont fait un sujet sur les Illuminati. Donc ils ont dit les Illuminati gouvernent-ils le monde? Au grand journal, quoi. Ça fait de l'audience quand même, cette émission. Donc au début, ils ont traité du sujet, alors les symboles, alors ouais, voilà, il y a plein de jeunes qui sont là-dessus, ils sont à fond, au niveau de la conspiration, c'est quelque chose, voilà, c'est... Ils ont fait une sorte de psychanalyse de la... des gens qui étaient conspirationnistes, disant qu'ils cherchaient trouver une explication, ils n'arrivent pas à avouer que le monde est compliqué, et tout ça... Et donc, ils ridiculisaient les conspirationnistes en disant que voilà, ils cherchent les symboles avec Heineken, les 3 E, ça fait 666, en disant que les conspirationnistes ne regardaient que ça, quoi, au niveau des symboles diaboliques, au niveau des marques et tout ça, avec 666, bref, tout ça. Disant que, bon, c'était... bon, bien sûr, ils font le rapprochement... conspirationnisme, antisémitisme, ils font un gros paquet, diaboliser tout ça. Donc après, bon, ils ont quand même fait parler une personne qui a étudié le sujet, quand même, qui a étudié les gens comme nous qui nous posons des questions. Donc il a dit, ah oui, non, mais ces gens, ils sont là, ils expliquent, donc, bon, ils veulent expliquer le monde avec ça, ça leur va très bien et tout ça. Bon, alors, il faut voir qu'au début de l'émission, quand même, c'était parti sur le ton, c'était que le conspirationnisme, c'est complètement ridicule. Voilà. Mais quand même, l'auteur, à la fin, il a été quand même obligé d'avouer. Bon, c'est vrai que quand même, les gens qui pensent au cro-conspirationnisme sont des gens quand même qui vont là où les journalistes ne vont pas. C'est-à-dire, à un moment donné, les journalistes ne font pas leur boulot avec Bilderberg et tout ça. Et il a évoqué à l'antenne que quand même, il y avait le Bohemian Club aux États-Unis, que c'était les grands républicains qui se rassemblaient tous les ans, qui faisaient un grand rituel devant une chouette enflammée. Et là, les autres, alors tout le monde, au début, tout le monde se marrait, et puis là, plus personne se marrait. Là, c'était le calme plat, et puis la vidéo se terminait là. Bah, tac. Et donc, oui, ils évoquaient aussi que c'était très dangereux, que les gens pensent ça, attention, hein. Alors, dangereux pour qui on se demande. On se demande pour qui c'est dangereux, je sais pas, moi je me sens pas en danger, il y a des gens qui pensent ça. Par exemple, que les professeurs d'histoire étaient très inquiets parce que quand ils parlaient du 11 septembre, les jeunes, ils parlaient de suite que c'était un complot de la CIA, que c'était un complot interne. Donc c'est vraiment quelque chose. Il faut lutter contre ça. Hein. C'est vraiment le nouveau cheval de bataille. Et donc voilà. Et donc là, bon, le problème c'est que bon, ils ont pas. Enfin, j'ai pas. La vidéo a été coupée, donc je sais pas comment ils ont réagi après. Mais le truc, c'est que maintenant, bon, ben voilà, il y a une porte qui est ouverte. Disons que les médias, ils essayent de ridiculiser, mais bon, on voit quand même qu'ils perdent le contrôle. À un moment donné, ils sont obligés de pourrir ce qui est en train d'émerger pour le rendre, faire du sabotage, en fait. Opération sabotage, voilà.
Effectivement, et dans la presse écrite, c'est exactement le même phénomène. Je parle de la presse mainstream, hein, bien sûr, pas des médias alternatifs. Et dans la presse écrite, on voit bien qu'à chaque fois, il y a une image extrêmement caricaturale des personnes qui ont compris, en fait, comment le système fonctionne. Et l'image caricaturale, en gros, c'est, voilà, les conspirationnistes, c'est vraiment une certaine tranche de la population, donc très jeune, plutôt nés dans des milieux défavorisés, et voilà. Et ce sont des gens voilà, qui vont dans la facilité, qui n'ont pas vraiment de cheminement intellectuel, etc., etc. Voilà, je vous la fais courte, mais c'est un peu ça. Et en fait, bien sûr qu'il y a des personnes comme ça, parce que déjà, quand on est touché de plein fouet par la crise, comme c'est le cas de ces personnes-là, bien évidemment, ceux qui sont les plus enclins à comprendre les raisons de pourquoi eux en sont là, mais ils vont sur les réseaux sociaux, ils vont sur les blogs, et au bout d'un moment, bien sûr qu'ils comprennent. Surtout que, bien entendu, il y a quand même beaucoup de ces personnes-là qui viennent des milieux, par exemple, d'Afrique du Nord, du milieu d'immigration. Et personnellement, j'ai eu l'occasion de beaucoup discuter avec ces personnes-là, parce que déjà, j'y ai des amis, et puis même, il suffit, par exemple, de prendre les taxis et de voir le niveau de conscience qu'il y a chez les chauffeurs de taxi, qui sont des personnes qui discutent avec tout le monde. Mais ils sont tous au courant, bien sûr. Il y en a 80% qui sont au courant. Alors, d'une part, il n'y a pas que donc, la population, j'irais des banlieues, pour caricaturer un petit peu. Mais bien sûr, eux se sont posés les questions parce qu'ils se sont quand même directement concernés dans leur quotidien par tout ce qui se passe, parce qu'ils ne trouvent pas de travail, parce que tout va extrêmement mal. Enfin, je dirais qu'ils font partie des personnes qui ont peut-être le plus de difficultés avec d'autres. Mais il y a aussi donc des personnes qui sont aussi un peu partout, hein, aujourd'hui dans les milieux sociaux. Moi, ce que je constate aujourd'hui, je voulais vous en parler parce que ça a été vraiment un tournant. Ce que je constate, c'est qu'il y a dans mon réseau Facebook des personnes qui sont maintenant, mais d'une variété incroyable, qui ont toutes compris qu'il y avait un complot. Alors après, en termes de conscience, c'est varié. Mais il y a par exemple des grands catholiques. J'en ai un, par exemple, qui est un homme d'affaires, qui a, semble-t-il, a une vie assez aisé, mais qui a vraiment pris conscience du complot, qui est en train d'alerter tous ses amis. C'est quelqu'un qui a fait l'université de Cambridge. Bon, a priori, il a quand même un peu plus de 2 neurones, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire Cambridge pour piger qu'il y a un complot. Il y a des personnes qui l'ont compris il y a des années, il y a des personnes, ça s'est fait comme moi au cours d'une rencontre. Parfois, il faut juste le claque qui fait que le déclic se fait. Aujourd'hui, je pense dans la population catholique et dans la population musulmane, il y a vraiment quelque chose de phénoménal qui est en train de s'opérer. Les catholiques comprennent que le Vatican est pourri, mais jusqu'à la moelle. Là, c'est vraiment aujourd'hui, j'ai eu cette discussion avec ma filleule qui a fait les JMJ il y a un an. Je peux vous dire que maintenant, elle n'a aucune illusion sur ce qu'est le Vatican. Chez les musulmans, c'est pareil. Ils savent très bien qu'Al-Qaïda, aujourd'hui, c'est une pure invention et que tout est financé par la CIA, donc par les US derrière. Donc, il y a vraiment quelque chose d'assez énorme là, qui est en train de se passer. Et tout ce qu'on appelle les conspirationnismes, c'est tout simplement les personnes qui ont compris qu'on leur ment, comme tu le disais tout à l'heure, Claire. Mais simplement que ça dure depuis très longtemps et maintenant, le mensonge a assez duré.
Oui, c'est juste pour relater deux, trois choses que j'ai observées. Donc, par rapport aux jeunes des banlieues dont tu parlais, enfin, qui seraient, les conspirationnistes seraient surtout chez eux, d'après ces écrits, en fait, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a, il se base certainement sur des chansons de rap, parce qu'il y a plusieurs groupes de rap qui dénoncent, il y a notamment Kenny Arcana depuis pas mal d'années qui dénonce, elle est elle a l'air très documentée, et puis d'autres dont j'ai oublié le nom, au moins deux autres que j'ai entendus, et j'étais stupéfaite d'écouter la teneur des textes, je me disais non d'une pipe, mais ils sont en train de tout balancer là. Donc voilà, donc là c'était pas juste le jeune qui est en bas de l'escalier, ce sont quand même des chanteurs de rap connus qui, voilà. Et d'ailleurs Kenny Arcana, enfin je suis pas une fan spécialement de Kenny Arcana, mais elle donnait un concert le 11-11, hein, quand c'était le 12-12, en 2012, j'avais remarqué, je me suis dit tiens, elle choisit ses dates. Bref, donc ça c'était une chose. Alors dernièrement dans le métro, pouf, un couloir, deux couloirs, hop, livre, sorti d'un livre, Le règne des Illuminati, Giacometti Ravenne. Première affiche, il vous contrôle. Deuxième affiche, il vous surveille. Troisième, sera-t-il possible de vous en échapper ou quelque chose comme ça. C'est des grosses affiches, parce que donc il y a un débat à la télévision, mais il y a une sortie de livre en même temps. Bon, et puis, mur d'en face, Bernard Werber, troisième humanité. Je me dis, fichtre, on a tous les codes dans le livre. À mon avis, ils ne vont pas cesser les débats à la télévision, à la radio. Parce que, mais, et alors dans les lycées, même s'ils ont peur de l'enseignement de l'histoire de France, je veux dire, là, à mon avis, ça va continuer. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, quelle est la teneur de, en tout cas, de Giacometti Ravenne, Bernard Werber, je pense que tout le monde connaît, et c'est très lu, et il passe ses messages mine de rien. L'autre côté, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a ça, ça existe, et je me suis dit, bah, et alors donc je vais à la FNAC Saint-Lazare, et je vois qu'il y a une conférence pour la présentation des livres de Ravenne Giacometti qui est prévue. Donc ils vont. Voilà. Non, je ne sais pas, je ne connais pas la teneur. Hein.
Ça n'a rien à voir avec ça. Je tenais juste à m'excuser tout à l'heure parce que je ne me suis pas rendu compte que j'étais un peu agressive, et je ne l'ai pas fait exprès, enfin, c'était inconscient. Par contre, c'est vrai que j'étais pas bien, c'est tout.
Juste avant de terminer l'enregistrement de cette très belle réunion, mes pensées se tournent vers Lina. Lina, je te vois souriante, radieuse, habillée de blanc et en pleine vie, en pleine possession de tes moyens physiques, et tu danses de joie. Voilà, je t'envoie tout mon amour et tous mes souhaits de pleine guérison. Voilà, et puis si le groupe a envie de dire quelque chose.
Plein de pensées d'amour pour toi, Lina.
Je t'aime, Lina.
Je ne te connais pas, mais je te transmets un immense soleil d'amour.
Voilà, moi aussi, je ne te connais pas, mais je souhaite plein de bonnes choses, plein de rétablissements.
Voilà. Oui, Marine, je te souhaite, Lina, beaucoup de bonheur et d'amour.
Salut, Lina, c'est Jacques. Je t'embrasse.
Bon courage.
C'est David. Bah, beaucoup d'amour pour toi et courage.
Paix, Lina.
Ludmila, Lina, je te souhaite d'amour et de courage. Et je pense que tu vas guériser.
C'est Thierry.
Ben, on te souhaite beaucoup de courage, paix et amour. Voilà.
Bonjour Lina, c'est Bruno, je ne te connais pas. Beaucoup d'énergie très puissante ici envers toi.
antenne.
Bonjour Lina, c'est Véronique. Sache que tu es dans nos cœurs et tu es présente maintenant, désormais tu seras présente dans chacune de nos réunions et nous t'aimons. Donc sois avec nous sur cette terre, nous avons besoin de toi. Nous t'embrassons.
Bonsoir Lina, c'est Cathy, je ne te connais que par email. Mais je te prends dans mes bras, je te fais un gros câlin, cœur contre cœur et avec beaucoup de douceur.
Voilà, l'amour guérit tout, l'amour est tout et l'amour transcende tout. Il y a un potentiel infini dans l'amour puisque c'est la totalité de l'existence. Donc, tout l'amour de mon cœur à ton cœur, Lina. Avec une immense joie de vivre. À très bientôt, à la semaine prochaine, très certainement.